Là-dessus, on joint Monique qui nous parle hypnose et sport.
Oui, Hélène, alors c'est une nouvelle qui a été publiée dans UDM Nouvelles, justement, le 25 mai dernier. C'est sous la plume de Béatrice Saint-Cyr Leroux qui a interviewé le professeur chercheur David Ogez. Alors, ils incarnent force mentale et concentration sans faille. Ils endossent la double responsabilité d'être les héros, et pas les zéros, ou les coupables selon leur performance. Ils sont reconnus pour leur personnalité singulière, voire excentrique. On parle ici des gardiens de but du hockey professionnel qui semblent former une classe de sportifs à part. Et Jakub Dobesch, le gardien des Canadiens de Montréal, qui brille depuis le début des séries éliminatoires, ne fait pas exception à la règle. Alors, derrière ces prouesses physiques se cache une gymnastique mentale tout aussi robuste. C'est une préparation psychologique qui est encadrée par Pete Fry, qui dit faire de l'hypnose pour se rendre dans le subconscient. Alors, David Ogez, qui est expert en hypnose dans des contextes de douleur, de soins palliatifs et d'anxiété, professeur au département d'anesthésiologie et de médecine de la douleur de l'Université de Montréal, et également clinicien-chercheur au centre de recherche de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, nous explique comment c'est possible. Il répond donc à 6 questions que la journaliste Béatrice Saint-Cyr Leroux lui a posées. Alors, la première question. Les techniques utilisées dans le sport ressemblent-elles à celles employées en hypnose médicale? Alors, il nous répond, il s'agit de techniques très proches de celles utilisées en effet en milieu hospitalier pour préparer des patients à des soins difficiles, ainsi pour réduire l'anxiété, pour améliorer la concentration et pour transformer les pensées automatiques. Dans le sport, on recourt à la visualisation pour faire voir une réussite plutôt qu'une difficulté. Ainsi, un gardien de but comme Jakub Dobesch peut se représenter en train d'arrêter un tir ou un attaquant en train de marquer. L'idée est de créer une imagerie mentale de réussite en mobilisant les différents sens comme si l'expérience était réelle. Alors, qu'est-ce qui distingue l'hypnose d'une simple visualisation? C'est la deuxième question. On parle d'hypnose lorsqu'on ajoute un phénomène de programmation lié aux suggestions post-hypnotiques. Alors, ces suggestions post-hypnotiques, elles ont lieu pendant la transe hypnotique, mais elles sont utilisées par la suite. Alors, pendant la séance d'accompagnement qui suit l'hypnose, l'athlète vit une expérience mentale de réussite. Il va visualiser qu'il arrête un tir, qu'il est performant. Ensuite, grâce à des mantras, des pensées ou des gestes précis, il peut retrouver cet état lorsqu'il en a besoin. L'objectif est que se reproduise automatiquement en situation réelle, par exemple sur la glace, ce qui a été vécu durant la séance d'hypnose. On ferait la même chose pour un patient phobique ou un patient qu'on va préparer pour des soins médicaux. C'est de l'hypnose associée à un travail de visualisation. Alors, la troisième question, que se passe-t-il dans le cerveau lorsqu'on visualise une performance? Eh bien, selon certaines recherches, notamment en contexte d'anesthésie, le cerveau peut réagir comme si l'expérience mentale était réelle. Des travaux ont montré que des patients plongés dans une visualisation hypnotique pouvaient ne pas ressentir ce qui se passait en salle d'opération. Cela indique que l'imagerie mentale peut activer des réponses cérébrales proches du réel, ce qui explique son utilisation dans le sport ou dans la thérapie. Quatrième question, ces techniques servent-elles aussi à combattre les pensées négatives? Alors ici, on parle d'inversion. C'est un travail de restructuration des pensées, comme on pourrait le faire en thérapie avec des patients anxieux, où l'on remplace des réflexes mentaux par des pensées plus aidantes et plus positives. Par exemple, pour un gardien de but, on transforme une pénalité, et donc un désavantage numérique, en un défi pour lui. Ça se compare aux thérapies cognitivo-comportementales élaborées notamment par le psychiatre Aaron Beck. Et ça, il a énoncé ces théories durant les années 1960. Il y a aussi plusieurs techniques de préparation mentale utilisées dans le sport qui sont inspirées de la programmation neurolinguistique, où on cherche à provoquer certains états mentaux. Un athlète peut ainsi être amené à se reconnecter mentalement à son meilleur match pour retrouver les émotions positives associées à cette performance. Cinquième question. Le gardien Jakub Dobesch semble avoir plusieurs rituels lors des matchs. Alors, comment les routines et les mantras peuvent-ils aider à la performance? Alors, les routines agissent comme des ancrages. Un geste répétitif, une phrase ou un rituel deviennent progressivement associés à un état mental particulier. Le fait de se répéter « je suis un mur » peut devenir une manière de retrouver rapidement un sentiment de confiance et surtout de contrôle.
« Je suis un mur ».
Un mur. Il doit se le répéter au moins 48 fois, en tout cas hier, je pense.
Ouais, peut-être.
On peut même comparer ces mécanismes à certains processus observés dans les troubles obsessionnels compulsifs. Dans les deux cas, les rituels servent à diminuer l'anxiété. La différence, c'est qu'en préparation mentale, ces techniques sont utilisées volontairement et dans un cadre précis. Ça renforce l'automaticité, soit des pensées ou des réactions qui émergent sans effort conscient. La sixième et dernière question, pourquoi ces techniques sont-elles particulièrement importantes chez les gardiens de but? Alors, je pense qu'on le devine, ces athlètes évoluent dans un contexte très exigeant mentalement. Ils sont isolés, constamment sous pression et disposent de très peu de marge de manœuvre. Comme la moindre distraction se solde par un but, la concentration devient essentielle. Plusieurs grands athlètes ont développé des routines très précises pour maintenir leur attention. Certaines techniques consistent, par exemple, à considérer chaque action comme la première du match, afin d'effacer mentalement l'erreur précédente et de rester concentré sur le moment présent. Ben, peut-être qu'en conclusion, Hélène, tous les joueurs du Canadien devraient peut-être suivre quelques séances d'hypnose. Peut-être le font-ils, je ne le sais pas.
Ça se peut. Mais je ne sais pas si ça fonctionne sur tout le monde. Je sais que en ce qui me concerne, je ne suis pas du tout une joueuse de hockey, mais on a tenté un jour de m'hypnotiser, puis ça fonctionnait pas du tout, du tout.
Ah non? Ben, écoutez, peut-être que c'était pas la bonne personne.
Ah, peut-être. Ça se peut.
Peut-être, je sais pas. Ouais. Écoutez.
Mais il y en a qui sont facilement hypnotisables. On l'a vu avec Mesmer, on est dans un autre registre, là, mais il claque des doigts, puis la personne fait la poule. Mais,
oui, exactement. Mais peut-être que la visualisation serait un meilleur outil pour vous.
Ah, peut-être, oui.
Alors, je me permettrai, Hélène, d'ajouter, de parler d'une nouvelle non négligeable.
Le nouveau scientifique en chef du Québec, vous avez son nom, bien, on le sait depuis hier, là, mais parlez-nous-en.
Oui, alors c'est ça, le ministre Drainville a nommé ce nouveau scientifique en chef du Québec qui remplace M. Rémi Quirillon, qu'il faut le dire, fut le premier à occuper ce poste durant 15 ans.
Quand même.
Et il s'agit du cow-boy fringant, comme vous le dites si bien, Hélène, Jérôme Duprat, qui est environnementaliste et prof en économie écologique à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, il faut savoir qu'en parallèle de sa carrière de bassiste, il a poursuivi ses études en biochimie, puis en géographie à l'Université de Montréal, où il a obtenu son doctorat en 2014. Et puis, il a fait un petit rallongé, un postdoc en biologie à l'Université McGill.
Juste ça.
Juste ça, en faisant de la musique. Hein.
Est-ce qu'il reste quelque chose, Monique, après le postdoctorat?
Non, je pense qu'on peut faire jusqu'à 2 ou 3 postdoctorats. Mais après ça, ben, on est assez spécialisé, il faut commencer à travailler.
On peut vivre.
Ben, c'est pas toujours facile parce qu'ils sont tellement spécialisés que c'est des postes très nichés. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en économie écologique. et professeur, comme je disais, au département des sciences naturelles de l'UQO. Il est spécialisé dans l'évaluation de la valeur économique des services rendus par la nature. En 2021, il a été nommé au comité consultatif sur les changements climatiques, un organisme chargé de conseiller le gouvernement du Québec en matière environnementale. Alors, je peux peut-être rappeler que le rôle du scientifique en chef du Québec, c'est de faire des recherches suite à des questions que posent des membres du gouvernement pour les conseiller sur ces mêmes questions. Si jamais vous êtes curieux, vous pourriez regarder ou réécouter « Tout peut arriver », animé par Marie-Louise Arsenault. Celui du samedi 16 mai, il y avait une magnifique entrevue avec M. Rémi Quirion. Très intéressant.
Parfait. Et c'est drôle parce que j'entendais Bernard Drainville, mais l'animateur de Tout un matin, le Patrick Masbourian ce matin, oui, qui est en entrevue avec Jérôme Duprat. Et j'avais cette idée aussi que c'est le ministre Bernard Drainville qui a nommé le militant des Cowboys Fringants, le militant environnementaliste et bassiste des Cowboys Fringants, Jérôme Duprat, au poste de scientifique en chef du Québec. Alors, je ne sais pas si ils vont chanter ensemble une chanson des Cowboys un jour, ça pourrait peut-être aider Bernard d'être sur la note.
En tout cas, il faudrait l'envoyer à l'effet Lara parce que...
L'effet Lara, oui, c'est ça. Je ne sais pas jusqu'à quel point il y a de l'espoir, mais en tout cas...
Non, il n'y en a pas beaucoup,
non,
je pense.
Chaque chose a sa place, chacun fait son
chacun
rôle.
Chacun ses spécialités,
oui,
Hélène.
Mais on peut dire que Jérôme Duprat a plusieurs cordes à son arc, en tout cas.
Tout à fait, va être un beau défi pour lui,
oui,
parce qu'il faut avoir une certaine neutralité quand même.
On lui souhaite bonne chance, bon succès, puis on va suivre ce qu'il fait avec beaucoup d'intérêt, surtout vous, Monique, j'en suis convaincue.
Oui, tout à fait, Hélène.
Un retour à l'époque disco, ça va peut-être vous donner envie de danser sur cette journée qui est jolie, mais qui manque peut-être un peu de soleil. En voici en musique.